pas que cette bonhomme. Amis auditeurs, nous retrouvons avec joie François d'Assise, frère François, dans notre émission pour découvrir son histoire, sa vie, son aventure, son témoignage à travers l'ouvrage de Julien Green, Frère François, mis en audio, production par Saint-Léger Productions. Nous en arrivons, on pourrait intituler les chapitres qui vont suivre l'aventure franciscaine à travers les risques de l'évangélisation et surtout le désir ardent d'évangéliser envers et contre tout. Je n'en dis pas plus, écoutons.
L'enfant, la nuit. Un récit franciscain d'une poésie très prenante est celui de l'enfant très pur et très innocent, qui vint trouver François et lui demanda de le recevoir dans la fraternité. Trop jeune pour être frère, il eût pu se voir doucement éconduit. Mais le Christ n'avait-il pas dit « Laissez venir à moi les petits enfants ?» Aussi fut-il reçu. Où ? Et quand ? La date de 1218 n'est pas improbable. Et le lieu fut un petit couvent sur une colline de Lombrie où François était venu séjourner. À l'heure de compli, François alla comme d'habitude coucher sur la planche qui lui servait de lit. Bien avant le point du jour, il se levait secrètement pour aller prier seul dans le bois. Fort attentif à tout ce que faisait le saint et sans doute pris d'un secret désir de l'imiter, le jeune nouveau venu attendit le moment propice et, se glissant près du poverello endormi, attacha sa corde à la sienne. Ainsi serait-il sûr de se réveiller quand François quitterait son lit. Cette petite ruse fut vite déjouée. Au plus profond de la nuit, François dénoua doucement la corde et laissa plonger dans le sommeil son petit compagnon trop curieux. L'enfant qui dormait se réveilla un moment plus tard et se leva d'un bond quand il se vit seul. Où trouver François ? Une intuition le guida vers le bois, d'ordinaire fermé par une barrière. Or, celle-ci était ouverte. Tout fier d'être aussi malin, il se mit à errer parmi les arbres quand il entendit des voix et se laissa guider par elles. Une surprise extraordinaire l'attendait qui le terrorisa en même temps qu'elle l'émerveillait. Celui qu'il cherchait, frère François, entouré et comme vêtu de lumière, parlait avec le Christ et la Vierge accompagné de saint Jean-Baptiste, tandis que des anges sans nombre volaient en chantant dans la nuit resplendissante. L'enfant tomba sur le sol comme un mort. Cependant, lorsque le ravissement de François eut pris fin, il quitta le bois pour regagner le couvent et marchait sous les arbres quand son pied heurta l'enfant évanoui. Ému, François le releva et l'emporta dans ses bras. Revenu à lui, le coupable avoua tout, mais François ne le gronda pas. Il lui enjoignit seulement de ne jamais révéler de son vivant ce qu'il avait vu et entendu dans ce bois nocturne. Est-il besoin d'ajouter que le garçon entrait si jeune dans la fraternité y vécut saintement jusqu'à sa mort. Des épisodes de ce genre font songer à ces petites peintures de Prédel dont nous admirons la fraîcheur. On regarde sans se lasser tel et tel détail plus exquis que les autres, et le charme du peintre finit par emporter notre assentiment. On ne songe plus à douter que cela soit. Les morts vont vite. Loin de ces lieux où François se livrait à la contemplation, le monde tournoyait dans le cauchemar des guerres. La croisade contre les Albigeois n'en finissait pas. Une fois de plus, l'effrayant Simon de Montfort assiégeait Toulouse, défendu vaillamment par un jeune homme de 17 ans, le fils de Raymond VI, comte de Toulouse. Le siège s'éternisait. On en était au sixième mois. Les assauts des croisés se succédaient en vain. À un autre bout de l'Europe, Othon VI, déposé après avoir perdu Bouvines, s'était enfermé dans son château du Harz. Cet homme si rusé et si intelligent avait vu fuir tous ses alliés et ne régnait plus que sur son duché de Brunswick. Remarié à une jeune princesse de Brabant qu'il avait en horreur, il devenait la proie d'une schizophrénie qui le menaçait depuis des années. Ayant fait condamner toutes les fenêtres et tendre les pièces de draperie noire, comme plus tard Charles Quint à Yuste, il vivait à la lueur des cierges, hurlant l'aveu de ses péchés dans l'espoir d'obtenir le pardon de Dieu et du pape qui avait jeté sur lui l'interdit. Déserte en conséquence la région autour du château et les églises fermées. Les moines d'un couvent voisin vinrent à sa prière le flageller au chant du Miserere. Ainsi pensait-il apaiser la colère de Dieu, et tout sanglant, il mourut épuisé sur le pavement de sa salle des gardes. Honorius ne leva l'interdit que pour permettre qu'on l'enterrât dans sa cathédrale de Brunswick. Frédéric II n'avait plus de rival vivant. C'était le 19 mai 1218. Moins de 10 ans plus tôt, alors qu'il traversait le duché de Spolète pour recevoir la couronne impériale des mains d'Innocent III, Othon III était passé dans un luxe inouï à côté de Rivotorto. On se souviendra que le peuple se ruait pour voir cette magnifique cavalcade, mais que François, lui, ne permit qu'à un seul de ses frères de quitter leur cabane et d'aller sur le passage de l'empereur, lui rappeler que la gloire humaine ne durait pas. En 1218, du saint et de l'empereur fou, lequel des deux pensait encore à cet incident? L'un et l'autre, peut-être, constatant la fragilité de la gloire. Un peu plus d'un mois après, le 25 juin, la mort frappa son autre coup spectaculaire sous les murailles de Toulouse. Guy de Montfort, frère de Simon, fut blessé par une flèche tirée de la ville, et son frère courut aussitôt à son secours pour le dégager. Quelque chose alors se produisit qui jeta le désarroi dans les rangs des croisés. Des dames et des demoiselles qui défendaient leur ville avec l'intrépidité de leur sexe maniaient un pierrier, et visèrent si juste que la lourde machine envoyait sa pierre là où elle devait changer le destin. Fracassant le heaume d'acier du comte de Montfort, elle fit une bouillie des yeux, de la cervelle, des dents et de la mâchoire. Simon de Montfort tomba par terre mort, sanglant et noir. Le siège fut levé. À ce moment de l'histoire, les nouvelles voyageaient plus vite que nous serions tentés de le croire. Elles traversaient l'Europe qu'elle tenait en haleine plus encore qu'aujourd'hui, à cause précisément des intervalles d'expectative. Après la mort sinistre d'Othon, la révélation du sort tragique de Simon de Montfort dut parvenir aux oreilles de François. La croisade finissait et l'hérésie cathare était écrasée sur cette terre de Provence vers laquelle les regards du saint s'étaient si souvent tournés. Pour faire triompher la foi, que de sang avait dû couler ! S'ajoutait l'horreur des bûchers. L'hérésie avait ses martyrs, elle aussi. Si le mot de Tertullien était juste, quelle moisson allait-elle faire lever dans la suite des temps ? François pouvait remercier Dieu qu'en Italie, l'Église n'avait pas eu à remporter de victoires aussi coûteuses. Se rendait-il compte que sa seule présence et la douceur de la prédication franciscaine avaient suffi pour que disparût l'erreur étrange qui faisait des corps l'œuvre de Satan et niait que Jésus fût Dieu ? On le suivait, le poverello, comme on eût suivi le Christ. Nul besoin de chevaliers en armes, de massacres et de supplices. La voix venue des pages de l'Évangile gardait toute la simplicité du message originel. Où était la limite de ce pouvoir plus fort que la violence des armées? Ne pouvait-on croire que François finirait par convertir le monde? Mais que valent les rêves des plus grands visionnaires quand les experts s'appliquent à y mettre de l'ordre? Des transformations étaient inévitables, qui ressemblaient singulièrement à des déformations dictées par le bon sens. Cependant, une multitude d'hommes affluaient vers François d'Assise. Des couvents s'élevaient, des règlements alourdissaient le texte initial d'une brièveté implacable. Le succès s'annonçait énorme. Le rêve de 1209 risquait de sombrer dans la réussite. Aux hommes rouges. Néanmoins, il savait agir et défendre ses idées. Après tout, c'était pour Dieu qu'il s'agissait de se battre. On ne voulait pas lui permettre d'aller en France. Frère Pacifique ira à sa place. Ce fut vers ce moment que, sur la demande du cardinal d'Ostie, il fut invité à prêcher en présence du pape et de ses cardinaux. Tous, en effet, se montraient curieux d'entendre cet homme célèbre dans toute l'Italie pour ses dons d'éloquence qui le distinguaient des prédicateurs les plus savants. Sans doute voulait-il aussi, en bon théologien, s'assurer de la pureté de sa doctrine. Ne savait-on pas qu'il n'avait point fait d'études? Une surprise les attendait. Le cardinal d'Ostie aimait François et voulait qu'il se tirât à honneur de cette épreuve. Aussi lui composa-t-il lui-même un sermon en latin solide et bien tourné. François reçut le conseil de l'apprendre par cœur, ce qu'il fit très docilement, et quand il parut devant la très intimidante assistance, il constata qu'il ne se souvenait plus d'un traître mot du texte qu'il savait si bien la veille. Ici parut l'homme de Dieu. Sans se troubler le moins du monde, il se recueillit un instant et pria le ciel de lui venir en aide. La réponse ne laisse pas d'étonner aujourd'hui encore. Ouvrant le psautier sur l'autel, il lut ce verset. Tout le jour, la confusion a couvert mon visage. Ce thème lui fournit un sermon d'une audace inouïe. Qu'étaient tous ces prélats, sinon le visage de l'Église, visage souillé par leur orgueil, leur amour du luxe et le mauvais exemple qu'ils donnaient au monde chrétien. Alors que ce visage devait resplendir de beauté comme le visage même du Christ. Ces paroles en langue populaire lui sortaient de la bouche comme un torrent. Et loin d'exciter les auditeurs à la colère, les plongèrent dans la stupeur. Un regard glissé sur leurs riches ornements, puis un autre plus rapide jusque dans leur conscience, ils se turent devant cet homme en habit couleur de terre qui leur disait avec la vigueur et la simplicité d'un prophète que Dieu n'était pas content de son Église. Et des larmes coulèrent. L'enfant.
Rendez-vous la semaine prochaine, amis auditeurs. Nous poursuivrons cette merveilleuse aventure franciscaine à travers le récit de Julien Green. Ce seront les étapes où Julien Green parsème beaucoup de chapitres en revenant sur cette joie particulière qui animait le cœur de François et le cœur de tous ceux qui avaient choisi d'embrasser Dame Pauvreté. Et notamment, ce sera un épisode aussi très important, celui du chapitre des nattes. Mais ce sera donc au prochain épisode.